Je vous invite à commencer par la prière. Seigneur, je sais déjà que je vais te réduire par mes mots. Mais je ne peux pas faire autrement parce que je suis créé déjà dans une nature limitée. Je vais utiliser ce que tu m'as donné. Ce sont des mots et je suis conscient que les mots ne t'expliqueront jamais. Tellement tu es éternel, tu es infini. Je n'ai pas cet outil éternel, mais tu nous as donné ton amour. Et cet amour, souvent, on n'a pas besoin de l'exprimer. On le vit, on le ressent chez les frères et sœurs. Et c'est un message en soi. Pardonne, Seigneur, la limite du langage. Je te prie de me pardonner si au cas où je faillis dans ce langage, si je me trompe. Et c'est pourquoi je remets entre tes mains tous mes frères et sœurs. Je remets aussi les enfants, Ryan et Isaac, afin qu'ils ne gardent en eux que ce qui vient de toi. Chose que je ne peux pas faire, mais toi seul peux faire. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors, comme je vous l'ai dit, le sujet d'aujourd'hui, je dirais, s'est imposé à nous, à moi, depuis que nous avons repris les études de la semaine. Au lieu de chercher un sujet pour le dimanche, des fois je dis qu'est-ce que je vais faire, mais en fait, le sujet s'impose en lui-même. Et depuis qu'on fait nos études, souvent c'est revenu. L'amour de l'autre. En fait, qu'est-ce qu'un chrétien? Pratiquement, simplement, au lieu de partir dans la théologie. Hein, on remplit nos têtes par la théologie, mais en fait, souvent la Bible nous dit, mais au lieu de chercher la théologie, simplement, que doit vivre un chrétien jour après jour, tout simplement? On n'a pas besoin d'étudier, on ne sait même pas lire, ni écrire, rien du tout. Qu'est-ce qui montre que nous sommes chrétiens? Et souvent, ça s'impose à nous, l'amour. Vous voulez connaître quelqu'un s'il est chrétien ou pas? Est-ce qu'il a de l'amour? En fait, si je dois résumer cela. Souvent, on croit que chrétien, c'est croire au Seigneur, avoir la foi. Mais la foi sans amour n'a aucun effet. Alors, je vais vous lire deux passages dans la Bible. Et c'est seulement ces deux passages, c'est à travers ces deux passages qu'on trouve l'expression dans toute la Bible. De la mort à la vie. De la mort à la vie, on les trouve dans seulement deux passages dans le Nouveau Testament. Et c'est cela que je vais vous lire. Le premier passage, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Et le deuxième, c'est cet apôtre en fait, qui a écrit ces trois épîtres et qui s'adresse à l'Église, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Et vous allez voir, c'est un lien entre les deux. Mais quand je les ai lus, j'ai dit à mes frères vendredi, quand je l'ai lu, il vaut mieux que je me taise. Mais vous savez très bien que je ne vais pas me taire. Bon, mais j'aurais pu me taire. Il suffit de lire ces deux passages et normalement, chacun de nous, honnête avec soi-même, on peut arrêter. Mais je crois que si je m'arrête là, vous allez me dire en fait, mais c'est ça le message? Ça peut être celui-là. Alors, regardez, je vais lire les deux. Le premier, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Je lis. Et je m'adresse aux enfants aussi parce que Roland a vu en fait que je m'agitais dans la voiture. En fait, c'était à propos du message. Avec Zach, avec mon fils, Zach. Et, en fait, on parlait de l'amour. Et c'est ça, en fait, c'est de ça qu'on discutait. Voilà. Bien. Alors, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc on pourrait s'arrêter là. Ce même apôtre écrit à l'Église. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, voilà ce qu'il leur écrit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Vous voyez? Croire ne suffit pas. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous devons tout naturellement aimer nos frères et sœurs, qu'ici ou ailleurs. Les deux vont ensemble. C'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être chrétien, d'avoir reçu le Seigneur et ne pas aimer ses frères et sœurs. Ce n'est pas possible. C'est incompatible, si vous voulez. Au lieu de dire aimer, pour que ça soit plus parlant, je dirais, ce n'est pas possible d'être chrétien et détester son frère et sœur. Ça part mieux là maintenant, parce que aimer, c'est Mais si je dis, nous sommes appelés en tant que chrétiens, ne pas détester son frère et sa sœur. Je vais plus loin, parce que la Bible, elle dit haïr. On aime bien le mettre le mot haïr, parce qu'on dit, tout de suite, on dit haïr, c'est gros. Haïr, je comprends. Mais je peux le traduire par détester. Je vais même plus loin. Je peux le traduire par en vouloir à son frère et sœur. Je peux le traduire par médire. Oui, c'est tout ça, c'est haïr. Mais nous, on dit l'homme, la chair, elle dit, mais non, je hais pas. Parce que détester, c'est un peu degré plus, un petit degré. Ou en vouloir, ou médire. Ça, le Seigneur peut l'accepter. Mais haïr, c'est vouloir tuer son frère. Non! Ça veut dire tout simplement, médire, rejeter, en vouloir à son frère et sa sœur, eh bien, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Eh bien, si je continue à médire, détester, je ne suis pas passé de la mort à la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je répète, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. L'évangile de Jean, vous savez, Jean, l'apôtre Jean, c'est celui que la Bible dit, en fait, c'est celui que le Seigneur aimait. C'est comme ça. Rappelez-vous, Jean, c'est celui, le repas de Pâques, il était sur son, il s'est couché sur lui. Oui. Il sait ça veut dire l'amour. Il avait une proximité avec le Seigneur. C'est ce Jean qui est le frère de Jacques, où la mère est venue pour dire à Jésus, est-ce qu'il peut s'asseoir à ta gauche et à ta droite? C'est ce Jean-là. Et c'est ce Jean-là qui était exilé par les Romains dans l'île de Patmos. Toute sa vie, on dit même, il a vécu toute sa vie dans une grotte. Et les gens lui en voulaient, ils voulaient le tuer. Il a vécu dans une grotte. Et c'est ce genre-là que Dieu a donné cette révélation de l'Apocalypse. C'est ce genre-là qui parle de l'amour de Dieu. Ceux qui écoutent et croient sont passés de la mort à la vie, voilà nous dit l'évangile de Jean. Mais on peut s'arrêter là. Non. Les épîtres de Jean, Jean 1, les trois épîtres, vous les lisez, c'est l'amour au centre. Jean s'adresse à la famille de Dieu. L'apôtre Saint-Pierre ou Saint-Paul, quand vous lisez leurs épîtres, on est généralement dans un lieu céleste, on nous parle de la vie spirituelle, du monde. Oui. Jean, il va juste terre à terre. Il s'adresse aux gens simples. La famille de Dieu, la vie de tous les jours. Les épîtres de Jean mettent l'accent sur un autre aspect de la vie chrétienne. Jean met en avant un aspect de la vie pratique de Dieu. Et tous, on peut se regarder, s'examiner s'il le faut, à la lumière de ces trois lettres que je vous invite à lire. Ces épîtres parlent de l'amour. Les épîtres de Jean déclarent que la foi d'un homme doit être manifestée par son amour. S'il n'y a pas d'amour, il y a un problème. Si nous demandons à une église, ou plus précisément à un frère ou une sœur, comment savez-vous que vous avez la vie éternelle? Il répondra peut-être, parce que j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, ce qui est vrai. Parce que je suis baptisé, ce qui est vrai. Parce que je fais partie d'une église locale, c'est vrai. Parce que je prie, je lis ma Bible. Je ne vole pas, je ne fais rien de mal. Parce que la parole de Dieu le dit, c'est écrit, regardez. Mais cela ne suffit pas tout à fait à vivre réellement la vie éternelle. Il se peut qu'il ait dit cela par religiosité, par habitude. J'espère que ce n'est pas notre cas. En somme, il le dit d'une manière charnelle. Et là, il suffit de lire l'épître aux Romains. C'est pourquoi Jean nous montre que la vie éternelle en nous doit avoir un impact. Un impact sur notre vie de tous les jours. Cette vie éternelle doit être visible en nous. Je répète. Cette vie éternelle doit être visible en nous. Non pas que nous les voyons nous-mêmes. Mes frères et sœurs, mon entourage, ma famille doivent voir cette vie éternelle. S'ils ne la voient pas, il y a un problème. Jean nous ramène à la pratique. Cette vie éternelle doit être visible en nous. Sinon, C'est comme un arbre qui ne porte pas de fruits et destiné à être jeté. Ça nous rappelle quelque chose. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 19 à 20, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Je peux comprendre qu'un chrétien, au début, il n'y a pas ses fruits. Mais il est anormal qu'après des années de foi chrétienne, qu'on ne porte pas de fruits. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas l'accepter. C'est une erreur. C'est quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il faut soulever. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne porte pas de fruits pendant un certain temps. Ce n'est pas possible. Quelqu'un peut dire, je crois, donc j'ai la vie éternelle. Et souvent on le dit, on parle de son entourage, de son travail, tout ce qu'on veut. Vous voyez, je crois, j'ai la vie éternelle. Mais on te répondra, mais je ne vois rien en toi. Qu'est-ce qu'on dit? Ah si, vous voyez quand même. Mais non, on te dit, on ne voit rien. Tu fais le contraire de ce que tu me dis. Cette vie éternelle est intimement liée aux fruits. Il ne peut y avoir de vie éternelle sans fruit de l'esprit. C'est tout simplement pas possible. Pas possible. La religion veut nous faire croire qu'on peut être chrétien sans porter des fruits. Comment je peux être chrétien et soutenir la guerre? Je répète, comment être chrétien et soutenir n'importe quelle guerre? Ce n'est pas possible, puisqu'on a Dieu de vie. Rien ne justifie une guerre. On pourra sortir, mais si, mais, ouais, mais que, mais... Non, le chrétien ne soutient pas la guerre, point. Mais on va disparaître. Eh bien, il le faut disparaître. Le Seigneur est allé jusqu'à donner sa vie pour ne pas se défendre. Un chrétien ne peut pas soutenir une guerre n'importe laquelle. Il faut être catégorique. Ne pas mélanger la discussion politique avec la foi chrétienne d'amour. C'est un Dieu de paix. Et aucune vie, et toutes les vies sont précieuses devant Dieu. La religion veut nous faire croire qu'on peut être chrétien sans porter de fruits. Et si on ne décèle pas, encore une fois, le mensonge du diable dans cela, ben continuons. Il n'y a pas de vie chrétienne sans fruits. Il faut se le répéter, même si tous les jours, s'il le faut. La parole de Dieu nous avertit et nous dit le contraire. Cette religiosité passive qui ne porte pas de fruits a accompagné l'histoire de l'Église. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis les origines de l'ère chrétienne. La Bible nous dit que du temps de Paul, hein, Saint Paul, il y avait déjà, et c'est Paul qui le dit, dans l'Église, il y avait des faux chrétiens. Le Paul qui le dit lui-même. C'est pas parce qu'on vient dans une Église ou dans le monde entier, on est des églises, ça y est. Non, parce que Paul lui-même, il le dit. Et je vais vous lire deux passages. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Voilà l'apôtre Paul qui parle. « Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes. » Il n'y a pas de chrétiens pour le moment. « En danger de la part des non-juifs. » Ah, ça rassure. « En danger dans les villes. » « En danger dans les déserts. » « En danger sur la mer. » Et en danger parmi les prétendus frères. Donc ça nous montre qu'au sein même de l'Église, c'est pas tout, oh là là, non. Il peut y avoir des frères, des faux frères. C'est pas parce qu'on est dans une grande Église. Non, ça ne veut rien dire du tout. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Un deuxième exemple, je vous donne. Un deuxième. Il y en a d'autres, hein, mais je ne prie que deux. Dans Galates, chapitre 2, verset 24. Verset 4. Galates 2, 4. Il écrit à Tite. Mais Tite qui était avec moi, il parle de Tite plutôt, mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères. Vous voyez, des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Je ne vais pas vous citer tous les passages, il y en a plein. Les faux frères sont ceux qui se disent frères, mais qui en fait n'en sont pas. Certains prétendent être de Dieu, mais en réalité ils sont dépourvus de vie. Ils entrent dans l'Église par les doctrines, des connaissances et des règles, la religiosité, la religion. Voyez? Comment pouvons-nous savoir si la foi de quelqu'un est véritable ou pas? C'est la question que je me suis posée. Ben oui. Comment pouvons-nous savoir si la foi de quelqu'un devant Dieu est vivante ou bien ce n'est qu'une formule, qu'une religion? Quel moyen y a-t-il pour prouver qu'il est de Dieu et qu'il ne l'est pas? Ben oui. Les épîtres de Jean répondent à cette question et je vous invite à les lire. Et vous avez la réponse. Jean nous a donné un moyen de distinguer entre les vrais et les faux frères, entre ceux qui sont nés de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Tout simplement. Grâce à l'amour. L'amour. Lisez-les, vous verrez. Il n'y a que deux passages dans la Bible que je vous ai dit qui tiennent l'expression de l'amour à la vie. Celle, la première dans l'évangile de Jean, il dit croire, on passe de l'amour à la vie. Et la deuxième, c'est on aime son frère et sa sœur. 1 Jean, si nous restons dans les épîtres de Jean, et sur 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Voilà ce que je lis. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ce verset parle de la preuve qui montre que nous sommes passés de la mort à la vie. Cette preuve, c'est l'amour envers les frères. L'amour en tant que fruit de l'esprit. La foi s'accompagne tout naturellement de l'amour. Si la foi n'a pas d'amour, je me pose la question sur la foi. Ce n'est pas possible d'avoir la foi, mais il n'y a pas l'amour qui va avec. Parce que les deux, c'est la même pièce de monnaie. Pile face. S'il y a foi, il y a amour. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'amour. 1 Jean chapitre 5, verset 1 dit. 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est notre cas. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui, c'est-à-dire son frère, sa sœur. C'est là une parole très précieuse. Si nous aimons Dieu qui nous a engendrés, il est tout à fait naturel que nous aimons aussi ceux qui sont engendrés de Dieu. Il est impossible que nous disions que nous aimons Dieu et n'ayons aucun sentiment envers son frère. Ce n'est pas possible. Il est vrai que la foi nous amène à Dieu. Par la foi, nous passons de la mort à la vie. Et par la foi, nous devenons membres de la famille de Dieu. Et nous sommes régénérés. Cependant, la foi nous amène non seulement au Père, mais aussi aux frères. Nous devons réaliser qu'aux yeux de Dieu, notre amour envers les frères est un test de l'authenticité de notre foi. Non pas de se forcer, mais normalement, ça coule de source. Si j'ai la foi, tout naturellement, j'aime mon frère et ma sœur, que ce soit ici dans cette communauté ou ailleurs. Les épîtres de Jean nous montrent clairement que ce n'est pas par la foi uniquement que nous devons discerner et reconnaître la foi authentique, mais par l'amour. Vous comprenez les enfants? L'amour. Il n'y a pas besoin de demander la mesure de notre foi. Nous n'avons pas besoin de nous demander à notre frère « Quelle est la mesure de ta foi ?» Regardons l'amour du frère. C'est simple. On n'a pas besoin de faire des écoles théologiques. 1 Jean chapitre 3, verset 11 dit « Car ce qui vous a été annoncé est ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Le verset 23 dit « Et c'est ici son commandement. » C'est un commandement, hein, c'est pas une option, un commandement. « C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » C'est pas une option. S'aimer les uns les autres, c'est un commandement de Dieu. Dieu nous commande de faire deux choses. Croire au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Toujours dans les épîtres de Jean. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. Julie. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez? Ce n'est pas une option, ça va de soi. Si j'ai l'amour vis-à-vis des frères et sœurs, j'ai la foi. Quand Dieu nous a engendrés, il a aussi engendré l'amour en nous. Donc il est tout à fait naturel que nous aimons nos frères et sœurs. Ce serait étrange, mais vraiment étrange, si nous ne pouvions pas nous aimer. Dieu a donné à chaque chrétien une vie d'amour et une capacité d'aimer. Il lui a aussi donné le commandement de l'amour, basé sur cette vie d'amour. Aimons-nous les uns les autres. D'abord, Dieu donne l'amour, et ensuite, il nous dit d'aimer. 1 Jean chapitre 2, versets 9 et 11, à 11, je lis. Celui qui prétend être dans la lumière et qui déteste son frère, je vais traduire autrement. Celui qui prétend être dans la lumière, qui médit, qui rejette, qui en veut à son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui déteste, qui rejette son frère, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Si quelqu'un sait que vous êtes un frère et pourtant vous en veut, vous déteste dans son cœur, cela prouve qu'il n'est pas chrétien. J'ai fait exprès de le dire. Et je crois que c'est gentil par rapport à ce que 1 Jean écrit. Si cette personne a vu 5 frères, s'il a vu 5 frères, et ils disent, j'en aime 4, mais il y en a un que je ne porte pas dans mon cœur. Cela prouve qu'il n'est pas un frère. Appelons un chat un chat. Dans l'Église, je crois qu'il ne faut pas chercher ce compromis pour eux. C'est clair. Nous devons comprendre que nous n'aimons pas un frère parce qu'il est aimable. Non. Mais parce qu'il est tout simplement un frère engendré par le Seigneur, il est en Christ. Et de mettre de côté toutes ces caractéristiques que je n'aime pas. Mais parce qu'on est en Christ, la même famille, je l'aime. Parce que Christ a aimé l'Église. Et non seulement il a aimé l'Église, le Christ, il a fait plus que ça. Parce que souvent, en nous traduisant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas dit, Dieu a aimé l'Église. On oublie ça, c'est marrant, on oublie. La première des grâces que Dieu a faites au monde, c'est qu'il a aimé le monde, même sans croire en lui. Dieu a aimé le monde, a aimé le monde. Et ça veut dire pas les chrétiens, tout le monde, la création l'a aimé. Et il s'est donné pour l'univers. Et sinon, en souvent traduisant, il est mort pour les chrétiens. Non, il est mort pour le monde. C'est un amour qui nous dépasse. La chair est tellement subtile, notre chair, notre nature est tellement subtile, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais elle va chercher à graduer la haine, la détestation, pour la minimiser. Ça passe mieux quand on dit, si tu es ton frère, tu n'es pas de Dieu. Ah oui, c'est vrai, il a raison. La haine, on ne peut pas haïr mon frère. Vous pourrez haïr, je vais le crucifier, je vais le pendre, je vais le tuer. Et si je traduis autrement? Si je remplace haïr par rejeter, critiquer, médire. Ah, on dit non, non, c'est une fausse traduction ça. Et pourtant c'est celle-là, la traduction. La chair est tellement subtile, elle minimise pour se justifier. Et je vous donne un exemple que le Seigneur a donné. Vous allez voir que haïr, l'exemple qu'il donne, c'est encore plus gentil que ce que je dis. Regardez, je vous lis. C'est dans Matthieu, chapitre 5, verset 22. Verset 22, je lis ceci. Mais moi, c'est le Seigneur qui parle. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. D'accord ? Celui qui traitera son frère de raca, vous savez ce que ça veut dire raca ? Imbécile. Traiter quelqu'un d'imbécile. Regardez ce qui se passe après. Sera passible du Sanhédrin. D'accord ? C'est la loi, ça. Celui qui le traitera de fou, c'est-à-dire quand je traite mon frère et ma sœur d'idiot insensé, voilà, Seigneur, ce qu'il dit, sera passible de la gêne de feu. Lisez-le. Chapitre Matthieu 5, verset 22. Traiter son frère, sa sœur d'insensé, d'idiot, passible de la gêne de feu. Il est dit ici, celui qui, comme nous avons lu dans 1 Jean 2, 9, qui déteste, qui rejette son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Il est donc dans les ténèbres. Et il marche dans les ténèbres. Autrement dit, la Bible nie toute possibilité que quelqu'un puisse haïr, détester ou rejeter ses frères. Pour la Bible, ce n'est pas possible qu'un chrétien puisse détester ou rejeter son frère. Ce n'est pas possible. Il n'y a que nous qu'on justifie ça. Ce n'est pas possible. Si nous savons que quelqu'un est un frère et pourtant nous le détestons ou nous le rejetons, nous devons dire alors, si je prends ce que je viens de vous lire, « Seigneur, je ne marche pas dans la lumière, je suis dans les ténèbres et je marche dans les ténèbres. » Mes frères et sœurs, je parle à moi le premier, je parle à mes enfants. Ne minimisons pas, c'est des choses toutes simples. 1 Jean chapitre 3 verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Il ne s'agit pas là de l'amour ordinaire qui nous parle, encore la Bible. Pas l'amour humain, encore une fois. Mais de l'amour avec lequel nous aimons les frères, c'est-à-dire celui que le Seigneur a mis en nous. Mais si je n'arrive pas à aimer mes frères, demandons-nous si nous avons reçu l'amour de Dieu. Ce n'est pas une fatalité non plus. Il suffit de se repentir, de se mettre à genoux, demander à Dieu, je n'arrive pas à aimer mes frères et sœurs, mets ton amour en moi. Oui, il n'y a jamais de fatalité avec le Seigneur. Nous pouvons comprendre que quelqu'un n'ait aucun sentiment pour les autres croyants. Nous pouvons comprendre que quelqu'un n'ait aucun sentiment pour les autres croyants avant de croire. Mais il serait très étrange qu'une fois ayant reçu le Seigneur, que nous ayons toujours pas ce sentiment. Ce n'est pas possible. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Je crains personnellement que si c'est la situation, c'est notre situation, et si c'est moi le premier, eh bien je me demande si je ne suis pas encore dans une mort spirituelle. Et je ne me poserai plus la question pourquoi je ne porte pas de fruits dans ma vie. Le verset 15 dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous ne pouvons pas imaginer que quelqu'un puisse encore commettre un meurtre après être devenu chrétien. La Bible nous dit que détester, rejeter, médire, critiquer son frère, c'est commettre un meurtre. Quelqu'un qui a la vie éternelle ne doit jamais détester, en vouloir à son frère. Si quelqu'un déteste les frères, cela prouve qu'il n'y a pas d'amour en lui. Cela signifie même que la vie éternelle n'opère pas en lui. Et j'ose penser que ce n'est pas le fait que la vie n'est pas en lui. Les enfants de Dieu peuvent être dans de nombreuses conditions différentes, mais ils ne peuvent jamais se détester. Si un frère a commis un péché méritant jusqu'à l'excommunion, si vous voulez, par exemple, d'une communauté locale, nous pouvons parler de lui, certes avec désolation et affliction, et avec indignation même, s'il le faut, mais toujours dans l'amour. Toujours dans l'amour. Sans détestation, sans mépris. Si un frère a fait quelque chose d'extrêmement mal aux yeux de la parole de Dieu, vu et jugé par l'Église, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en tant que tête de l'Église, jusqu'à affecter la vie de l'Église, nous devons le dénoncer. Parce que c'est le corps du Seigneur, mais toujours avec amour. Mais nous ne pouvons jamais détester nos frères. Si un frère déteste un autre frère, la vie éternelle n'est pas en lui. Ou plutôt, si vous voulez, n'opère pas en lui. Il n'est pas nécessaire de détester tous les frères. Il suffit qu'on déteste un seul. Pour prouver qu'on n'a pas l'amour fraternel en nous. L'amour fraternel dont nous parlons est un amour qui aime tous les frères. Car en aimant tous les frères, nous aimons le corps du Seigneur en entier. C'est aimer tout simplement, aimer mon frère, c'est tout simplement aimer le Seigneur. Si un frère a fait des choses qui nous irritent, nous pouvons l'exhorter et le reprendre, mais nous ne pouvons pas le détester ou le haïr ou le rejeter. S'il a fait quelque chose qui nous provoque,
ne pouvant nous mettre en colère. La Bible nous dit qu'il y a une sainte colère, ça existe, mais je ne dois pas vous coucher avec ma colère. Mais nous sommes appelés à l'aimer. Mais il ne doit pas y avoir en nous aucune détestation ou haine. Si nous n'avons pas l'intention de l'aider à laisser le Seigneur le restaurer et que notre but est simplement de l'attaquer, de l'abattre, cela prouve que nous ne sommes pas dans la lumière. Dans Matthieu 18, vous connaissez ce passage. Si ton frère pêche, hein, on le connaît tous, va le voir, parle-lui en tête à tête. Sans que personne ne le sache, en secret, va lui parler. Et si tu vois que vous n'arrivez pas à trouver une solution, va voir un frère ou deux frères de l'église et allez le voir. Discutez avec lui, essayez de. Mais si vous voulez non plus, il n'y a pas d'issue. Parle à l'église. Et là, on va lui parler. Toute l'église lui parle. Mais tout ça, c'est un acte d'amour, le faire. On n'est pas dans la critique. Mais on est quand même dans la maison de Dieu où il faut quand même respecter la parole de Dieu. Tout ça, parce que l'église veut gagner ce frère. Tout dépend de savoir si votre but, notre but est d'abattre notre frère ou de le gagner. C'est là une question très sérieuse. Nous ne devons pas la prendre à la légère. Parce qu'il est question de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu ne nous appartient pas. C'est Christ lui-même. Attention. Un autre exemple concerne le frère dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 13. Où l'apôtre Paul dit quelque chose. On peut nous remettre en question tout ce qu'on a dit. Voilà ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe, il leur dit « Ôtez le méchant du milieu de vous ». À première vue, on dit « Mais où est-ce qu'il est l'amour dans tout ça ?» On peut le dire. « Ôtez le méchant au milieu de vous ». Au début, Paul a livré un tel homme à Satan pour la destruction de sa chair. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et avec le pouvoir du Seigneur Jésus, parce que les Corinthiens ne faisaient rien pour le mettre dehors, en sachant qu'il y a le mal dans l'église, et il le laissait. Était-ce sévère de la part de l'apôtre Paul? C'était, il est vrai, extrêmement sévère. Mais Paul a fait cela afin que l'esprit de l'homme soit sauvé au jour du Seigneur. Lisez ce passage, voilà, je vous le lis. Verset 5, 1 Corinthiens 5, verset 5. Livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, l'apôtre Paul? Paul a livré la chair de cet homme, de cette personne, à la destruction. C'était pour qu'il ne souffre pas une perte éternelle. C'est-à-dire, en lui montrant qu'il n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, on a fait le cheminement, un frère qui lui parle, deux, trois frères qui lui parlent, l'église qui lui parle et ne veut pas accepter, mais le fait de le mettre dehors dans le sens ôter le méchant, c'est que l'église et Dieu espère qu'il y ait une remise en question de ce frère dehors, il se rend compte, il revient dans la repentance et le pardon, et nous avons gagné ce frère. C'est de ce sens-là, pas dans la condamnation éternelle. Paul a livré sa chair à la destruction. Dans Matthieu 18, que je vous ai lu tout à l'heure, le recours à l'église a été également pour but la restauration de même que l'excommunion dont il est question, dans 1 Corinthiens chapitre 5. De telles décisions, en harmonie avec la parole de Dieu, créent en nous, normalement, d'attraire en nous une tristesse. S'il y a une excommunion d'un frère et nous sommes heureux, il y a un problème. L'Église ne doit pas se réjouir du départ d'un frère ou d'un soeur, que ce soit de lui-même ou l'Église qui le décide. Si nous n'avons pas cette tristesse, cette affliction, il y a un problème aussi. Frères et sœurs, c'est pratique, en lisant ces trois lettres de Jean, ça m'a touché, ça m'a parlé. Et je ne peux que le partager avec vous. Certainement je me trompe, mais que Dieu soit témoin. Si je me trompe, qu'il me corrige. Mais que vous gardez que ce qui vient de lui. Frères et sœurs, si quelqu'un juge et condamne, mais n'a ni larmes, ni tristesse, cela prouve que cette personne ne connaît rien à l'amour fraternel. Si nous ne sommes pas tristes de nos frères qui sont partis, qui ne viennent pas, etc., c'est que nous n'avons rien compris à l'amour. Si nous ne sommes pas inquiets, si je ne me soucie pas que ceux qui ne voient pas mes frères qui ne sont pas à l'église, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si quelqu'un reprend un frère dans le seul but de l'abattre ou le rejeter, cette personne n'a pas d'amour en elle, seulement de la détestation, voire de la haine. Détester, mépriser, en vouloir aux frères, la Bible nous dit c'est les tuer, parce qu'on devient des meurtriers. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Je ne fais que lire 1 Jean chapitre 4, versets 20 à 21. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ici, Jean nous montre qu'aimer son frère, cela revient à aimer Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Aimer son frère ne consiste pas à surveiller l'attitude de son frère envers nous. Aimer, ça ne veut pas dire « je t'aime, je regarde comment tu ne m'aimes pas ». Le fils a regardé le père, il ne regarde que le père. Et le père qui regarde le fils, ne regarde que le fils. L'amour donne sans chercher à recevoir. Donc c'est un amour divin que nous avons reçu en nous. Si vous me dites « c'est impossible », je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que nous avons reçu Christ en nous. Parce que c'est impossible en nous. Celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous ne sommes pas appelés à juger de l'attitude de l'autre pour justifier notre amour ou notre absence d'amour envers le frère. Le commandement, c'est simple. Aimez vos frères sans porter un jugement sur l'amour qu'ils peuvent avoir envers nous. Nous ne conditionnons pas notre amour par un retour. Le Seigneur a aimé sans retour. S'il avait attendu la preuve de notre amour envers lui, il ne serait jamais venu. Encore moins monté sur une croix pour payer le prix à notre place, pour nous ouvrir la porte du salut et de l'éternité. C'est un poids que j'avais depuis une semaine ou deux sur moi. Et certainement, si c'est un poids, c'est que Dieu m'interpelle moi personnellement. C'est pour ça que je le partage. En le partageant avec vous, quelque part, je suis en train de me confesser, certainement, devant Dieu. Et je le prends comme ça, et avec humilité, si c'est le cas, Seigneur, pardonne-moi. Ne prenons pas à la légère. Nous ne devons avoir qu'une seule pensée envers nos frères et sœurs. L'amour. Et si j'aime, et bien même si on me déteste, ça ne change rien à mon amour qui me fait du bien. Ainsi, cet amour se manifeste et s'accompagnera par d'autres vertus. Si nous avons cet amour en nous, d'autres fruits s'accompagnent de l'amour. Je dirais même, ce sont les conséquences même de l'amour. Et ces fruits sont cités dans la Bible, dans Galates 5. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tout ça, c'est les enfants et les filles de l'amour. On peut dire amour, deux points, et voilà la définition de l'amour. Il ne doit y avoir aucune haine, aucune détestation, aucun mépris, aucun rejet, seulement de l'amour. Si nous avons tout ça, nous pouvons dire fièrement, devant le monde entier, nous sommes chrétiens. Si ce n'est pas le cas, je pense que lieu de dire chrétien, se mettre à genoux devant Dieu et le laisser nous transformer. Et par la suite, il me permettra de témoigner. Cette pratique est pour nous un entraînement. Un jour, notre être tout entier demeurera dans l'amour éternel. Le meilleur exercice pratique chrétien est celui de veiller à aimer son frère sans évaluer le degré d'appréciation et d'amour du frère pour moi. Je n'ai pas à reprocher à mon frère son manque d'amour pour moi. Le plus important, c'est que je l'aime. Par contre, je dois veiller à avoir toujours de l'amour pour mon frère. Le Seigneur nous demande d'aimer et non pas de chercher à être aimé. À aucun moment vous verrez chercher à être aimé. Dieu nous demande d'aimer. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour bannit la crainte. Quand nous nous tiendrons devant le siège du jugement, nous n'aurons peur de rien. Cette vie d'amour œuvrera parmi nous et nous donnera l'assurance pour tenir ferme devant le trône du jugement le jour qu'on sera devant Dieu. Aimer les frères, c'est aimer Dieu. Notre amour pour les frères amènera notre amour pour Dieu à la perfection. Nous pouvons aimer les frères à tel point qu'il n'y ait plus en nous de crainte envers les frères. Aimer les frères et aimer Dieu sont deux choses qui vont toujours ensemble. Nous devons aimer les frères sur la terre si nous voulons aimer Dieu. Ainsi, l'amour sera perfectionné en nous et nous aurons l'assurance au jour du jugement. C'est là quelque chose de merveilleux. Que Dieu nous aide à apprendre l'amour des frères dès le début de notre vie chrétienne et ainsi laisser l'amour de Dieu jaillir à travers nous, car Dieu est amour. et que Dieu me pardonne. Amen.